Vous savez que dans cette émission, on aborde souvent ce sujet de la transition écologique, sujet qui préoccupe toutes les échelles du territoire, le Finistère, le département notamment. La conférence annuelle sur l'environnement du Conseil départemental avait lieu lundi à Plébin. Pour introduire cette journée de réflexion sur la transition, c'est l'Agence de l'urbanisme et du développement de Brest Métropole, l'ADEPA, qui a rappelé les enjeux de cette transition écologique, en particulier le directeur de l'ADEPA, Benjamin Grebeau, que Jean Causeur, notre reporter, a pu interviewer.
La conférence de l'environnement du Conseil départemental du Finistère pour cette année 2021 avait pour titre « Comment placer la nature au cœur du projet urbain en Finistère ?» Et pour introduire quelque part les échanges, il m'a semblé utile de resituer l'impact de la ville, de l'ensemble du mode de vie et des activités économiques des Finistériens, de repositionner cet impact sur les écosystèmes. Parce qu'on ne peut pas, sur cette question de la relation à la nature, réfléchir uniquement à l'échelle locale. On voit bien qu'on est, par nos modes de vie, par nos modèles économiques, également dans des situations d'interdépendance avec des phénomènes plus globaux. Et qu'aujourd'hui, globalement, les questions, par exemple, de changement climatique, les questions de crise de la biodiversité, sont à la fois des sujets locaux et des sujets globaux. J'ai commencé mon intervention en disant que les scientifiques estiment aujourd'hui qu'il y a quatre grandes limites planétaires qu'il ne faudrait pas dépasser, qui sont en réalité déjà dépassées, et qui sont de nature à perturber le fonctionnement des écosystèmes planétaires, de telle sorte que ça pourrait conduire à une crise de l'habitabilité de la planète pour l'espèce humaine. Parmi ces quatre grandes limites qui sont déjà dépassées, il y a, je l'ai dit, le changement climatique, la crise de la biodiversité, la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, et également l'artificialisation des sols. Et en fait, ces quatre grandes limites, si on regarde nos modes de vie, nos modèles économiques en Finistère, on peut aussi considérer que c'est dépassé à l'échelle locale. Et donc, penser la relation entre le fonctionnement des espaces urbanisés et la nature, ça suppose de réfléchir à des façons de vivre, des façons d'aménager le territoire qui soit demain plus sobre en énergie, qui restaure les écosystèmes et les habitats naturels pour la biodiversité, qui émette moins d'azote et moins de phosphore, qui n'artificialise plus les sols. Et donc ça remet en cause de façon très claire nos modes de vie de tous les jours, ce à quoi chacun aspire dans sa vie, la façon dont on a organisé notre économie également, aller vers un avenir dans le plus sobre, c'est-à-dire qui exerce une moins forte pression sur les écosystèmes.
Et vous nous avez cité les quatre que nous avions dépassés, quels sont les cinq restants que nous n'avons pas encore dépassés et qu'il ne faut surtout pas dépasser si nous voulons garantir notre sécurité et notre sauvegarde sur cette planète?
Alors, j'ai évoqué quatre limites déjà dépassées, il y en a cinq autres. Alors les cinq autres, ça ne veut pas forcément dire qu'elles ne sont pas dépassées. Il y en a pour lesquelles ça n'est juste pas mesuré ou caractérisé aujourd'hui. Ce n'est pas aussi rassurant que ça. Mais les autres limites planétaires dont on discute, c'est l'acidité des océans. C'est la perturbation, le fonctionnement de l'eau douce. C'est l'ozone stratosphérique. C'est les aérosols atmosphériques. Et puis, c'est l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère. Donc, quand on parle de nouvelles entités, c'est tout aussi bien le registre, par exemple, des nanoparticules que la question des organismes génétiquement modifiés.
Vous avez dit qu'il fallait agir maintenant si on veut avoir un futur enviable. Mais vous parlez sur les quatre que nous avions dépassés. Est-ce que le fait d'agir sur ces quatre branches déjà abîmées va quand même réussir à les soigner, ou alors pas du tout, enfin il faut limiter la casse au maximum, mais sans pour autant un retour en arrière est totalement inenvisageable.
Alors en fait, même si on agit avec détermination sur la lutte contre le changement climatique ou sur les facteurs de dégradation de la biodiversité ou sur l'artificialisation des sols, en réalité, il y a déjà des processus de changement qui sont largement engagés. Le changement climatique, même si on arrêtait toutes les émissions aujourd'hui, il se poursuivra, par exemple. La montée des eaux littorales se poursuivra. Il y a une telle inertie dans les systèmes planétaires que même en agissant avec détermination aujourd'hui, ce sont des choses qui, les dérèglements à l'œuvre vont se poursuivre et vont même s'accentuer. Il est nécessaire d'agir, mais dans le même temps, donc agir en réduisant nos pressions sur le climat, sur la biodiversité, sur les eaux, sur les sols, mais en même temps, ben, du coup, s'adapter. Parce que le changement, les perturbations seront là, et donc il s'agit aussi de penser le projet urbain de telle sorte à ce qu'il soit plus résilient, c'est un mot un peu à la mode actuellement, un petit peu compliqué, mais en gros qu'il puisse mieux encaisser les chocs face à des crises qui viendront, et encaisser les chocs, donc ça veut dire se préparer à ces risques futurs. C'est vrai sur des questions de pluviométrie intense qui peuvent générer des inondations. Ça peut être vrai sur des tempêtes qui vont emporter, grignoter des morceaux de littoral. Ça peut être vrai sur les perturbations de la biodiversité ou sur, pourquoi pas, d'autres nouvelles formes de maladies, de pandémies, comme on vient d'en commettre une avec la Covid. Être plus résilient, être en capacité de s'adapter plus facilement face aux chocs, on l'a vu avec la pandémie de Covid, ça peut vouloir dire à un moment retrouver des marges de manœuvre localement, être parfois plus autonome. Donc peut-être être reconsidéré, par exemple, nos grands systèmes d'approvisionnement planétaire sur les biens de consommation, sur les approvisionnements en énergie. Reconsidérer tout cela, donc se poser la question, pourquoi pas, de production locale, etc. Mais aussi de travailler toute la dimension humaine. Hein, c'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question culturelle. On a vu là aussi pendant la crise Covid qu'il y a des systèmes de solidarité qui se sont remis en place localement, que ce soit sur les questions alimentaires, sur les questions d'aide à la personne, etc. Donc c'est une question quelque part de fonctionnement de société sur lequel chacun a sa place à prendre pour refaire du lien plus en local. Et quand je dis plus en local, ça ne veut pas dire vivre en autarcie, replié sur soi, mais disposer d'une plus grande autonomie, une plus grande capacité à s'adapter, à faire face localement, face à de possibles perturbations dont on ne sait pas quelles elles seront, de quel ordre elles seront, mais dont on sait qu'elles arriveront.
Quels changements préconisez-vous à l'échelle locale? Est-ce que vous avez des exemples ou qui pourraient être appliqués ou commencent à être appliqués d'ici les 20 prochaines années?
Alors, pour que l'on mesure un petit peu l'ampleur du chantier, je vais le dire comme ça, parce que ça pourrait sembler simple, mais en réalité, c'est assez exigeant et ça peut même paraître presque décourageant tant le changement à mener est important. Je vais simplement essayer de traduire ce que signifierait d'atteindre la neutralité carbone dans les prochaines années. Envisager d'atteindre la neutralité carbone, si on regarde la stratégie nationale, la stratégie française bas carbone, ça supposerait d'aller demain vers des transports qui n'émettent plus de gaz à effet de serre, enfin plus de dioxyde de carbone. Ça supposerait d'aller vers des bâtiments à zéro émission de gaz à effet de serre. Ça supposerait de réduire de 46% les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, de les réduire de 81% dans l'industrie, de 66% dans la gestion de nos déchets. Alors vous voyez bien que quand on évoque ces efforts-là, en fait, c'est remettre en cause, en question en tout cas, nos modes de vie de façon assez fondamentale. On ne va pas réduire de 46% les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture en produisant comme aujourd'hui. On ne va pas réduire de 81% les émissions liées à l'industrie en faisant comme aujourd'hui. Pour l'agriculture, par exemple, ça peut signifier de travailler à la fois sur l'alimentation animale, mais aussi peut-être la taille du cheptel, mais peut-être aussi le mode de gestion des sols, des cultures, pour aller vers des pratiques qui valorisent davantage la présence du carbone dans les sols. Pour l'industrie, pour la gestion des déchets, ça veut peut-être dire aussi tout simplement extraire moins de ressources, davantage réutiliser, réemployer les ressources déjà existantes dans nos sociétés, travailler sur les logiques d'économie circulaire, par exemple. Et puis, je le redis, je pense que la question de la sobriété, c'est-à-dire une moindre consommation d'un certain nombre de ressources, est nécessairement devant nous. Et alors là, ça pose tout un tas de questions, parce qu'aujourd'hui, notre société n'est pas organisée, est plutôt organisée sur la consommation et soutenue par la croissance de l'activité économique, y compris dans nos mécanismes de solidarité sociale. Et donc, penser une société plus sobre en énergie et en ressources matérielles, c'est une question sociétale abyssale.
quand on instaure un changement, on a forcément des avantages et des inconvénients. Est-ce que les inconvénients ne seront pas trop importants comparés à ces avantages qu'on nous prédit ?
Alors, raisonner en avantages et en inconvénients par rapport à tous les changements que j'évoque, ça convoque en fait la question des valeurs. Ce à quoi chacun tient dans sa vie et ce à quoi on accorde de l'importance. Je l'ai dit tout à l'heure, la crise qu'il s'agit d'essayer de résoudre, c'est une crise de l'habitabilité de la planète Terre pour l'humanité. Donc, si l'on suppose, mais c'est un jeu d'hypothèse, que l'option qui doit guider nos choix, c'est celle qui permettrait à l'humanité et à tous les humains de vivre correctement sur la Terre, il est tout à fait clair qu'on ne peut pas continuer à consommer autant. Donc ça demandera des efforts pour revoir nos modes de vie. Très clairement, mettons, on prendra, enfin, les classes moyennes ou supérieures dans les pays développés ne pourront vraisemblablement plus dans 20 ans, sauf à ce qu'on invente des techniques que je ne connais pas aujourd'hui, imaginer aller repasser leurs vacances sur d'autres continents. L'autre option, c'est de dire il y a les plus riches et les plus forts, les plus pauvres par ailleurs, et réfléchissons à chacun pour soi, continuons à vivre comme aujourd'hui, et ceux qui s'adapteront, ceux qui subiront la plupart des conséquences, seront les autres. C'est une autre façon de poser l'équation. Chacun, quelque part, libre à chacun ensuite de se positionner dans ce jeu d'acteurs-là, de voir comment il entend formuler les questions et quelle part il veut prendre dans cette interpellation, qui est une interpellation collective, sociétale. Donc c'est une question éminemment politique. Alors je l'ai résumé de façon quasiment caricaturale, là, hein, mais pour bien faire comprendre ce qui est en jeu. C'est une question, oui, très profondément culturelle et politique, et qui interroge la place de l'individu dans la société.